Bonjour et bienvenue sur Radio Tropique, Tropique FM et dans cette nouvelle émission de Résonance. Nous vous invitons à partager le regard vigilant que nous portons à l'égard de ce qui s'éveille sur les initiatives, les éclats, les utopies, les mutations à l'œuvre dans le champ de la création contemporaine et sur ce qui fait que la création vit, bouillonne, se développe au quotidien. Au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, après notre rubrique « Paroles d'auteur, paroles de compositeur », j'aurai le plaisir d'accueillir à l'antenne Delphine Morel, directrice artistique de la Bulle Bleue, établissement et service d'aide par le travail artistique, culturel, solidaire, singulier, une aventure humaine et artistique qui se développe depuis peu à Montpellier. Puis nous reviendrons en Rhône-Alpes avec l'association Terre de Sienne à Grenoble. Nous échangerons avec Emmanuelle Thiel, musicienne intervenante au sein de cette structure qui permet à des personnes en situation de handicap d'avoir accès aux pratiques artistiques et notamment à la musique. Pour cette nouvelle émission de Résonance sur Tropique FM, je suis accompagné de Josie Josserand et de Simon Deborne à la technique et à la réalisation. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver à ce micro et de vous embarquer à nouveau pour de nouvelles destinations. Nous allons tout d'abord, comme d'habitude, retrouver notre rubrique habituelle, paroles d'auteur et de compositeur.
Dans l'apprentissage des langues, le plus important n'est pas la langue qu'on apprend. Abandonner la sienne, voilà ce qui est décisif. D'ailleurs, c'est seulement alors qu'on la comprend vraiment. Je ne crois pas aux époques de décadence. De même, pour moi, au-dehors des frontières, toute vie est belle et tout discours sur la valeur des langues est à mes yeux inacceptable. Walter Benjamin.
Thank you.
Nous venons d'entendre un extrait de « Ruine, clarté stellaire » de Jean-Claude Wolff, interprété par l'ensemble Le Temps retrouvé, placé sous la direction de Serge Coste. Et cette œuvre est un hommage en particulier à Hector Berlioz, mais avec la parole de tout à l'heure de Walter Benjamin, on évoquait l'apprentissage des langues, le mélange des langues que l'on apprend lorsqu'on commence à abandonner la sienne. Il y a aussi ça un petit peu dans cette œuvre de Jean-Claude Wolff par rapport à Hector Berlioz, de pouvoir justement non pas faire des pastiches de la musique d'Hector Berlioz, mais de comment tout ce que lui a pu ressentir et tout ce que ce grand compositeur de la moitié du 19e siècle a apporté et comment tout ceci a contribué à faire naître aussi cette musique que Jean-Claude Wolff nous a proposée avec Ruine, clarté stellaire. Et puis maintenant, nous allons nous rendre à Montpellier pour découvrir le travail que mène la compagnie La Bulle Bleue, une troupe permanente qui réunit des comédiens, des techniciens, des administrateurs en situation de handicap mental ou psychique. Et pour évoquer cette jeune et belle aventure, nous accueillons dans Résonance Delphine Morel. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes la directrice de cette compagnie dont l'essence première est le théâtre et la création théâtrale, si je ne me trompe pas.
Voilà, la compagnie La Bulle Bleue donc, est effectivement une compagnie traditionnelle, on va dire. Ça, voilà. Évidemment, sa singularité, c'est que c'est une troupe de 13 comédiens permanents, comme vous l'avez précisé, et aussi une équipe de techniciens, ce qui est de personnes chargées de communication et de relations avec le public, ce qui, quand même, on fait une structure. Enfin, c'est une structure qui réunit 23 personnes en situation de handicap et accompagnées par des éducateurs et un responsable de la compagnie et moi-même qui dirige l'ensemble, puisque La Bulle Bleue en fait est à la fois une compagnie de théâtre,
c'est ça,
mais aussi un lieu culturel, et il y a aussi donc d'autres métiers comme les métiers de la restauration et aussi paysagisme.
Donc c'est à la fois un lieu de formation, de professionnalisation au métier de comédien, et qui en même temps, dans cette aventure, et on entend bien toute l'originalité de toute cette architecture. De fait, en plus, ces lieux-là ne sont pas si nombreux, en tout cas, à se créer en ce moment, en tout cas.
Oui, alors dans le sud de la France, il n'y en avait vraiment aucun. Hein,
c'est ça.
Dans toute la grande moitié sud. Mmh. Et il y a une dizaine d'ESAT qui sont sur des projets artistiques. Et vraiment concentré en région parisienne ou dans le nord de la France, dans l'Est. Donc effectivement, on est assez peu nombreux, hein, puisqu'il y a 1550 ESAT en tout en France.
Effectivement, je connaissais pas le nombre sur le territoire national, mais effectivement, ça fait très peu au regard de celui-ci.
Très, très faible. Et donc il y avait quand même un manque à ce niveau-là, puisqu'il y avait quand même pas mal de personnes en situation de handicap qui avaient une pratique artistique soutenue et une volonté de support former et d'en faire leur métier. Dans la région du sud de la France, mais je pense à peu près dans toutes les régions, il y a beaucoup d'initiatives issues du médico-social qui allient action artistique, démarche artistique et accompagnement des personnes. Évidemment, là, on est sur un autre endroit, hein, puisqu'on va au-delà de ça, puisqu'effectivement, c'est permettre à ces personnes-là d'en faire leur métier.
Puis ce que je trouve qui est intéressant aussi dans cette démarche, c'est que d'entrée, dans comment vous avez imaginé les choses, c'est que vous avez noué des partenariats, et ils sont plusieurs là actuellement, même si l'expérience est nouvelle, des partenariats avec des artistes, mais aussi avec des équipes artistiques. Et ça fait partie du projet dès le départ. Hein.
Oui, ça c'est très inscrit dans le projet. C'est quand même au-delà du, enfin après tout se recoupe, hein, parce que évidemment ça se retrouve dans le projet artistique, mais on va dire aussi dans le projet institutionnel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment dans le projet même, sur la globalité, c'est vrai que c'est de favoriser au maximum les échanges, les rencontres, et donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Bulle a ouvert il y a un an et que toute l'équipe, on a été à la fois les travailleurs et les salariés, on a été recrutés à ce moment-là.
D'accord.
Mais c'est un projet qui a été mûri par par un groupe de personnes convaincues de la nécessité d'une compagnie telle que la nôtre. Mmh. Et un des fondements, ça a vraiment été justement d'inscrire le projet dans la collaboration avec effectivement des artistes metteurs en scène et des équipes artistiques. Et c'est pour ça qu'il y a un lieu culturel aussi, parce que forcément ça génère une dynamique différente s'il y avait juste une compagnie avec un metteur en scène. Et le fait qu'il y ait un lieu culturel, c'est quand même un support de travail qui est aussi le support de la rencontre. Et la façon dont on travaille, c'est qu'on travaille avec un artiste associé pendant 3 ans. Donc ça, c'est quand même, ça nous singularise peut-être d'autres ESAT. Il y a d'autres ESAT qui font ça aussi, enfin, en particulier l'Oiseau-Mouche.
Je pense à l'Oiseau-Mouche, oui, tout à fait.
Voilà. Mais, et d'autres, évidemment, d'autres structures de ce type qui travaillent avec des artistes associés. Alors nous, on est en plus sur un artiste associé sur la durée, c'est-à-dire que l'artiste ne vient pas qu'autant au moment d'une création.
Et ça, c'est vraiment important, je pense, cette inscription dans la durée pour le temps qu'un compagnonnage réel en plus puisse se construire, quoi.
C'est sur une durée de 2-3 ans. Ça permet, alors bon, en même temps, là pour l'instant, on a recruté d'un mois, mais donc c'est un peu théorique, mais en même temps, là la pratique nous confirme nos orientations.
Et puis je crois qu'il y a l'idée de jumelage aussi, hein, avec certains lieux culturels. Il y a ces partenariats, mais il y a aussi ce lien avec le tissu culturel aussi de la région Languedoc-Roussillon que vous souhaitez aussi mettre en œuvre, ou qui commence peut-être aussi en œuvre progressivement.
En fait, très rapidement, on a bénéficié d'un bon accueil en fait de la part à la fois des collectivités, de la DRAC.
Ça, c'est intéressant. Ça.
Oui, c'est intéressant parce que c'était pas
forcément acquis dès le départ.
Non, c'était pas acquis d'avance, parce qu'effectivement il y a des fois un peu des clichés qui peuvent être véhiculés sur le travail qui est engagé avec des personnes en situation de handicap, et un peu des a priori, peut-être des clichés un peu forts, mais des a priori. Nous, la chance qu'on a eue, c'est que à la DRAC, on a eu à la fois la personne qui est sur l'action culturelle et à la fois la personne qui est sur le théâtre, qui était vraiment assez convaincue par les démarches artistiques et vraiment sur la qualité artistique du travail. Donc ça a impulsé beaucoup de choses. Et aussi, on a dès à présent effectivement un théâtre, un des théâtres importants un théâtre qui a une visibilité, on va dire, de Montpellier, qui s'est associé à nous. Et on a fait une première création en septembre qui était un peu l'acte de rencontre.
Oui.
Avec l'artiste associé, donc qui est Marion Coutarel du Théâtre de la Roumanie. Et la prochaine création aura lieu en janvier 2014 et elle sera créée dans ce théâtre. Et donc pas dans notre lieu culturel, et ça c'est pour nous un enjeu important d'arriver à ce positionnement là rapidement. Après, par ailleurs, c'est une compagnie qui fait de la diffusion, qui c'est joue ça c'est classiquement, mais effectivement on a plutôt un bon accueil. À Montpellier, il n'y a pas tant de démarches alternatives. Enfin, il y a quand même beaucoup de compagnies alternatives, mais il n'y a pas tant de lieux alternatifs, de démarches alternatives. Donc du coup,
cette initiative, elle est bienvenue.
Elle est bienvenue. Et effectivement, on l'inscrit dans une exigence artistique. Tant parce que c'est la compagnie que aussi les compagnies avec lesquelles
vous travaillez. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, et c'est quelquefois ce qui manque, ou du moins c'est les difficultés que rencontrent, quand on évoquait tout à l'heure les ESAT à vocation plus artistique, lorsqu'ils sont concentrés sur leur propre entité, la difficulté que chacun relevait au fur et à mesure un petit peu des années, c'est cette difficulté, enfin un peu cette enclave que produit aussi l'étiquette entre guillemets institutionnelle d'ESAT, alors après qu'ils soient artistiques en plus, et que du coup le milieu culturel avait un peu tendance, non pas à ignorer, mais à marginaliser quand même de fait un peu les choses, et je crois qu'effectivement ça me paraît relativement essentiel de pouvoir tout de suite, quand on est à la création de quelque chose comme ça, d'essayer en tout cas d'avoir un partenariat plus large avec le milieu culturel. Et ce que vous nous en dites semble qu'en tout cas c'est une des pistes.
Après, là c'est vraiment un choix qui est à la source de la création. Alors forcément, budgétairement, ça a une incidence.
Certainement.
Parce que nous, les éducateurs ou toute l'équipe d'accompagnement, effectivement, personne n'est porteur de la formation et de la création. Après, on va dire que la direction artistique, elle est partagée quand même.
C'est
parce
ça.
Que forcément,
oui, vous y participez aussi.
Il peut y
aussi.
Avoir un débat sur la pérennité et la continuité, enfin dans l'évolution de la démarche artistique. Alors là-dessus, on la partage. C'est-à-dire que moi, je suis directrice, donc forcément, je vais la porter. Mais dans une concertation très étroite avec l'artiste associé et avec François Pontaillé, qui est responsable de la compagnie. Donc, on va dire que c'est un dialogue un échange à trois.
Un échange à trois qui est très important et très, très à fond, quoi. Hein.
Voilà. Donc, parce qu'évidemment, quand l'artiste associé changera, même si sans doute, il y a les personnes suivent ou, en tout cas, elles vont imprégner à chaque fois, mais nous, on est aussi en charge du relais.
Et comment pourrait, comment du fait, dans ce cadre-là, ont été, entre guillemets, choisies les personnes qui aujourd'hui composent la compagnie La Bulle Bleue, qui ont été accueillies dans ce centre? Est-ce que vous avez vu les intentions de départ, vu le projet? Oui. Est-ce que ce sont déjà des personnes qui avaient, quel que soit un début de parcours artistique ou pas du tout, ou comment avez-vous procédé?
Alors moi j'ai été au moment des premières admissions, hein, puisque donc je suis arrivée 4 mois avant l'ouverture, 3 mois avant l'ouverture, donc ça m'a permis. Donc forcément c'est assez court, hein, quand même.
Bien sûr.
On peut, bon, je pense qu'avec le temps, évidemment les admissions se feront différemment. Puis là il fallait admettre
assez vite
personne en moins d'un an, donc on peut considérer que c'est un peu court.
Ouais.
Mais on a, alors, et surtout au début on n'avait pas la présence de l'artiste associé pour les premiers.
D'accord.
Donc ça c'était assez complexe, et il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, donc forcément c'était, et on voulait pas et on ne veut toujours pas que ça se traduise par une forme d'audition, puisqu'on n'est pas là-dedans et que on ne fonctionne pas comme ça. Donc il y a une équipe pluridisciplinaire, mais forcément, bon, pour les premiers, l'artiste associé n'était pas impliqué, mais maintenant elle l'est. Il y a le fait que le parcours artistique s'inscrit dans le projet professionnel de la personne. Ça, on va quand même l'apprécier. Et ensuite, et pour l'apprécier vraiment, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des périodes de stage avec l'artiste associé. Et l'artiste va, enfin, la metteur en scène donne un avis sur effectivement la présence scénique de la personne, son articulation au sein du groupe, son rapport au plateau, son rapport au public. Donc ça, là-dessus, on lui laisse, celle qui en a un avis. Et après, on le complète avec les capacités de la personne à être déjà sur un projet qui est en création. C'est-à-dire, on est une structure neuve, donc toute personne en situation de handicap, ça veut dire qu'il y a beaucoup de changements. Au départ, on n'avait pas de locaux, donc on a quand même essayé d'apprécier l'adaptabilité de la personne. Et ensuite, de pouvoir y travailler à temps plein, hein, sur du théâtre. Donc, au-delà du loisir et de l'envie d'en faire un peu plus que du loisir, il faut avoir vraiment envie de faire que ça. Donc, ça aussi, c'est pas évident. Et donc là, on associe l'avis de l'éducateur référent qui va être pendant la période de la rencontre, du chef de service et de la psychologue. Globalement, c'est rare, les personnes, pour l'instant, finalement, ça a été souvent par rapport à la maturité, par rapport à une pratique artistique, plus que par rapport à une question de présence, que les choix ont pu être faits.
Je vous propose une toute petite pause musicale, Delphine, et puis nous nous retrouvons. Voici Louise Clavis, on parlait aussi de théâtre et aussi avec la compagnie La Bulle Bleue. Et là, nous allons découvrir une pièce, L'imparfait des langues, Louise Clavis. Thank you.
la voix toi qui chante.
C'était un extrait de L'imparfait des langues de Louis Clavis, accompagné de Max Baron au saxophone alto, de Paul Brousseau au piano, électrique, guitare, sampling, de Maxime Delpierre à la guitare et de François Merville aux drums. Et nous continuons d'évoquer avec Delphine Morel cette aventure de la compagnie de la Bulle Bleue à Montpellier et qui développe tout un projet avec des comédiens en situation de handicap, mais aussi, comme on l'a entendu tout à l'heure, complètement ancré avec le milieu culturel, associant des artistes, associant des compagnies et des lieux de diffusion. Peut-être on pourrait évoquer maintenant, Delphine, les projets actuels de création de la compagnie.
Oui, Alors, on a fait une première création qui s'appelait La Ligne et le Cercle, mise en scène par Marion Coutaret. Donc ça, c'est une création qu'on continue à jouer, à tourner. Et par ailleurs, on est sur deux projets. Donc actuellement, il y a 12 comédiens dans la compagnie.
12 comédiens.
Voilà, 12 comédiens. Donc si sur la première création, ils étaient 8 à la création, donc ils étaient tous là sur les prochaines créations, on va travailler avec deux metteurs en scène à qui on a laissé une certaine liberté, en fait, pour composer l'équipe avec laquelle ils souhaitaient travailler. Et donc, les comédiens sont répartis sur ces deux créations. Et on a une première création qui aura lieu en décembre, début décembre, dont le titre n'est pas encore défini, mais qui est sur une thématique, en fait, sur la thématique des stéréotypes au travail. Ça, c'est ici d'ateliers d'écriture qui ont été menés en lycée, en entreprise et au sein d'un autre ESAT, puisqu'on est jumelé avec un autre ESAT. Et c'est vrai que la question du travail, à la fois de qu'est-ce que le travail artistique et qu'est-ce que le travail d'une personne en situation de handicap, c'est un débat qui est venu un peu nous traverser très rapidement après notre ouverture. Et donc du coup, on a trouvé que c'était intéressant de mener comme ça une collaboration avec les lycées, et d'autres travailleurs en situation de handicap et les entreprises. Et donc, un metteur en scène qui s'appelle Nicolas Hérida, qui est un metteur en scène régional, travaille sur cette création-là, sur cette forme, avec 6 comédiens de la Bulle Bleue. Et ensuite, cette création-là, elle aura lieu dans le cadre des rencontres théâtrales qu'on organise tous les trimestres, qui s'appelle Aparté. Donc là, la création se fera sur notre lieu.
D'accord.
Et la deuxième création, donc, est la deuxième création de Marion Coutaret, du Théâtre de la Remise. Elle, c'est, le titre n'est pas encore complètement défini non plus.
Ouais.
Mais, en tout cas, c'est inspiré de La Ménagerie de Verre de Tennessee Williams.
Oui, donc, c'est un beau sujet.
Voilà, un beau sujet sur, effectivement, alors là encore, Marion Coutaret, c'est quelque chose qui est apparu assez évident. Pour elle, c'est qu'elle, c'est une metteur en scène qui travaille qu'à partir d'improvisation de plateau, donc c'est, elle s'inspire de textes, mais elle était, les comédiens avec qui elle travaillait, elle trouvait que la question d'inscription dans la famille, dans le schéma familial, et aussi, bon, dans La Ménagerie de Verre, effectivement, il y a un personnage qui est dit fragile, donc ces questions-là, elle trouvait qu'elles étaient bien en écho et donnaient une bonne base pour structurer, en fait, son travail avec eux. Et donc, ça, c'est une création fin janvier.
Ah, c'est vraiment
des
belles perspectives.
Oui.
Alors nous allons arriver au terme de notre échange, Florence, mais un grand merci déjà à vous. Et puis peut-être que nous pouvons convenir, si vous le voulez bien, qu'on puisse vous retrouver régulièrement à cette antenne sur Tropic FM et dans Résonance, pour que justement on suive un petit peu, pas à pas, le développement artistique et des aventures de la compagnie de la Bulle Bleue, en tout cas.
Avec grand plaisir.
Ah, de même, en tout cas. Merci en tout cas de nous avoir donné ces nouvelles du Sud et puis des belles nouvelles de création, en tout cas.
Ben, bientôt alors.
À très bientôt. Merci Florence. Au revoir.
Au revoir.
C'était Palabre de Louis Clavis dans un album intitulé L'imparfait des langues, où Louis Clavis, accompagné de Max Baron, de Paul Brousseau, Maxime Delpierre et François Merville, nous emmène dans toute leur manière d'interpréter le verbe, le dialogue, l'annonce, l'archéologie, la convocation, la palabre, le long du temps. Un merveilleux album à découvrir et à ne pas à consommer sans aucun arrêt, en tout cas. Alors nous allons, après Montpellier, revenir en région Rhône-Alpes et plus précisément à Grenoble pour découvrir là aussi une action artistique passionnante menée par une association Terre de Sienne. Et c'est avec Emmanuelle Thiel, musicienne intervenante au sein de sa structure, que nous allons pouvoir évoquer cette initiative à l'antenne. Bonjour Emmanuelle.
Oui, bonjour.
Merci d'être là parmi nous, parce que je sais que votre temps est compté et un petit peu serré en ce début d'après-midi.
C'est la période.
C'est la période, hein, il y a beaucoup de choses à ce moment-là. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous dépeindre un peu ce qu'est l'association Terre de Sienne et qu'est-ce qu'elle a comme objectif?
Oui, tout à fait. Alors Terre de Sienne, c'est une association qui a à peu près 15 ans. Mmh. Et en fait, son objectif, c'est de travailler avec un public d'adultes handicapés mentaux. Mmh. Donc principalement des adultes. On a aussi quelques projets avec des enfants ou des plus jeunes, mais c'est vrai que notre premier public, c'est quand même les adultes. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de leur proposer des activités de loisirs et des activités de culture, mmh, dans le but d'une intégration en milieu ordinaire, souvent. Mmh. Et puis, voilà, pour avoir leur proposer des ateliers du loisir adapté, en fait.
Et ça veut dire que ces ateliers, un petit peu, comment se présentent-ils? Ils sont dans des lieux culturels, dans des locaux à vous?
Alors,
comment
nous,
s'organise
juste,
un petit peu
on a juste un local administratif, mm-hmm, pour tout ce qui est paperasse, etc., et pour la préparation. Et puis pour tous nos ateliers, en fait, effectivement, on est accueillis par d'autres structures. Donc par exemple, le centre social du Vieux-Temple, mm-hmm, accueille beaucoup de nos ateliers. On est également en lien avec d'autres associations de notre quartier, donc la MJC des Allobroges, des structures qui ne sont pas loin. Mm-hmm. On a aussi un atelier de percussion qui a lieu à l'externat Notre-Dame, donc mm-hmm, différents lieux comme ça dans la ville, ce qui permet aux adultes de se rendre déjà dans un milieu ordinaire, ou enfin mmh, voilà, qui est partagé par d'autres publics.
Et ça, c'est un élément dès le départ. Alors il y a peut-être le contexte des locaux qui s'imposait comme ça pour vous.
Oui, ou déjà on n'en avait pas de locaux, mais l'idée c'était aussi de
c'était
pouvoir
aussi
s'intégrer, enfin voilà, qu'on ne soit pas coupé de tout le monde, mais qu'on s'intègre au maximum nos ateliers et nos activités, puisqu'on n'a pas que des ateliers, mmh, dans le milieu ordinaire. Voilà.
Alors c'est intéressant parce qu'avec nos auditeurs, nous étions donc à Montpellier il y a quelques minutes et Delphine Morel, qui était la directrice de la compagnie La Bulle Bleue, nous expliquait aussi que dans la réflexion de départ de la mise en route de cette compagnie, le lien et les partenariats avec le milieu culturel étaient quelque chose d'extrêmement important, mmh, à leurs yeux, et c'est ce qui a un petit peu conduit aussi à toute l'élaboration un petit peu du projet. Donc du coup, on peut faire aussi les parallèles où là aussi pour vous, ça a été aussi une donnée importante de faire, en tout cas, que ces moments d'accès à la musique ou aux pratiques artistiques ne se passent pas uniquement en lieu institutionnel, mais puissent justement se dérouler dans d'autres lieux culturels ou lieux sociaux, de manière à déjà créer les passerelles.
Tout à fait. Voilà, c'est déjà un premier accès, en fait. C'est, voilà, c'est d'être dans les mêmes locaux que le tout public. Et puis, ensuite, on essaye... Donc en fait, ça se décline un peu sur plusieurs pôles. Donc il y a toute une activité de l'association qui est en fait plus de l'accueil temporaire, des soirées, des week-ends, des séjours, où là vraiment on est sur cette prise en milieu ordinaire, on va dans un gîte, parfois avec des familles, avec d'autres vacanciers, etc., où on part en soirée. Enfin, c'est des soirées qui soient soit vraiment à but de loisir, hein, aller... voilà, faire un bowling, aller au cinéma entre amis, faire un restaurant, ou parfois vraiment beaucoup plus à viser, enfin à but artistique, on va dire. Et dans ce cas-là, l'accueil, enfin la, oula, je perds mes mots.
Tout va bien. Et à ce moment-là, l'accueil que vous proposez dans ce moment-là, il est plus basé sur une pratique artistique précise ou
voilà,
ou un lien...
parfois on a vraiment des projets particuliers qui sont voilà, soit sur la musique, sur le théâtre, sur le clown. Ça peut être une rencontre avec un artiste en particulier. Voilà. Après, au niveau de nos ateliers culturels, effectivement, le but c'est de faire des passerelles avec d'autres associations, de rencontrer ce qui se passe au niveau aussi du spectacle vivant grenoblois. Donc on propose beaucoup de soirées, c'est vrai, au spectacle au fil de l'année. On essaye de proposer cette ouverture-là en plus de la pratique artistique des adultes handicapés.
Et comment vous sentez au fur et à mesure des années? Parce que du coup, Terre de Sienne a déjà tout un parcours derrière elle. Hein.
Oui.
Depuis combien d'années cette association existe?
C'est depuis 97.
Voilà, donc il y a déjà un long parcours. En tout cas, vous vous inscrivez dans le paysage grenoblois. Et du coup, comment sentez-vous peut-être, après, si on regardait un peu par-dessus l'épaule, si on regardait voilà, un peu derrière toutes ces années, comment vous sentez ce milieu culturel, justement, par ce que vous essayez de tisser comme passerelle avec? Comment réagit-il? Comment s'implique-t-il par rapport à votre projet au fur et à mesure un petit peu des années?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la rencontre à chaque fois, je trouve, avec des artistes locaux, que ce soit au sein des ateliers ou que ce soit au sein de week-ends à thème. Voilà, par exemple, on a fait des week-ends qui étaient vraiment sur la découverte du gamelan balinais, etc. On peut faire, donc là, on a travaillé avec Grégoire Jeans, enfin, on était en partenariat avec l'association Orfeo. C'est important pour nous aussi de travailler en partenariat avec d'autres associations qui amènent vraiment une spécialisation, enfin, qui ont chacun une spécialité finalement. Donc, quand on travaille, ben, moi, par exemple, j'anime un atelier percussion, et j'aime bien faire intervenir dans l'année un ou plusieurs intervenants qui amènent leurs propres spécificités, et ce qui permet vraiment d'enrichir l'atelier, de faire découvrir différentes cultures. Et puis c'est intéressant pour tout le monde parce que ça renouvelle, parce que c'est un public qui adore rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux artistes. Et du coup, il y a un échange qui se crée dans les deux sens, vraiment, qui est très très intéressant, parce que les personnes qui viennent travailler avec notre public, elles aussi, ça les transforme quelque part, parce qu'il y a ce côté pédagogique qu'il faut complètement adapter.
C'est ça, revisiter sa manière
voilà,
de transmettre.
Voilà, c'est ça. Donc ça, enfin, ça laisse pas indifférent, parce qu'effectivement, les méthodes qu'on peut appliquer ailleurs ne marchent pas forcément. Donc c'est il faut trouver. On est perpétuellement en recherche, quoi, quelque part.
Du coup, ça oblige, hein, effectivement, à revisiter sans parler de choses académiques, mais en tout cas, des modalités peut-être habituelles qu'on peut trouver dans certains lieux de transmission ou d'enseignement, et que du coup, peut-être que ça nous ramène à rechercher un peu même l'essence première, finalement, de qu'est-ce qui doit se passer dans ce type de rencontre.
Voilà, et puis alors dans les types de rencontres, et puis dans ce qu'on va... Enfin, finalement, c'est vraiment centré sur les personnes, parce qu'on est obligé de partir de la personne elle-même et de ses potentialités et de ses limites aussi, pour construire quelque chose. Donc, du coup, c'est une démarche qui est très, très individualisée aussi, tout en essayant de travailler sur le groupe, mais en tenant compte vraiment des spécificités de chacun et où chacun va pouvoir être mis en valeur par rapport à son handicap ou sa difficulté. Donc c'est ça qui est très très riche dans ce travail avec ce public, c'est qu'effectivement ça oblige constamment à se réinterroger et à voir, à aller vraiment creuser les personnes, essayer de voir qu'est-ce qu'elle a à exprimer et comment on va pouvoir le mettre en valeur Donc c'est cet aspect-là que je trouve
passionnant aussi. Et en même temps, est-ce que vous voyant faire, vous voyant intervenir, est-ce que justement ces professionnels qu'on peut retrouver dans d'autres lieux d'enseignement, ça les interroge sur leur manière de faire, ça bouscule des choses ou viennent-ils auprès de vous pour se dire ben oui, nous peut-être on n'a pas cette même manière d'approcher les choses ou on a le sentiment qu'on n'est pas si loin mais il se passe tel type de choses. Est-ce que il y a des interrogations, des partages
oui,
aussi à ce niveau-là?
Oui, ce qui est assez intéressant, c'est que chacun commence avec ce qu'il est, hein, que enfin, les intervenants, les artistes qu'on fait intervenir. Découvre aussi, explore au fur et à mesure, et bien sûr, ils peuvent toujours me demander s'ils ont besoin, d'aller plus loin. Nous, on essaie de les aiguiller sur aussi les personnes, parce qu'on a une grande connaissance des personnes qui viennent parfois depuis 10 ans dans l'association ou 15 ans. Donc, on peut aussi leur faire gagner du temps sur la façon dont ils interviennent, des choses qu'on a déjà testées aussi et dont on sait qu'elles sont que ça ne va pas forcément marcher ou que c'est ça peut permettre d'aller plus vite, mais en général l'artiste lui-même il adapte sa pratique alors soit ça se fait effectivement facilement et puis on va retravailler facilement ensemble, des fois c'est pas forcément un public avec lequel ils se sentent assez à l'aise ou finalement le partenariat n'a pas forcément lieu d'être tout le temps, hein. Donc permet de voir ce genre de choses, hein. Ça interroge toujours en tout cas et ça remet face à sa pédagogie, de choses et ça force à aller plus loin dans sa recherche.
Ça, je trouve ça vraiment important et du coup, les personnes qui participent à tous ces ateliers, comment viennent-ils à vous? C'est-à-dire du coup, Terre de Sienne lance une information auprès des différentes associations, institutions grenobloises ou comment les choses se présentent-elles à ce niveau-là?
Alors, il y a beaucoup de bouche à oreille parce que l'association s'est créée petit à petit et c'est vrai que le réseau d'adhérents a gonflé au fur et à mesure des années. Et en fait, c'est vrai que il suffit qu'il y ait un nouveau qui vienne d'un nouvel établissement ou d'un nouveau milieu et puis ça fait boule de neige, il y a des copains à lui qui viennent, etc. Donc on finit par retrouver, comme c'est en dehors de tous les établissements, les gens viennent à la carte, ils viennent en dehors de leur temps de travail, donc c'est pas un établissement ESAT ou
accueil
de jour, c'est vraiment un atelier, c'est des moments à la carte en fait, sauf pour nos ateliers où les personnes s'inscrivent à l'année.
D'accord.
Donc sur un atelier, il y a un suivi d'un an.
Parcours.
Voilà, pour qu'il y ait quand même une construction, etc., qu'on avance avec le même groupe. Mmh. Mais par contre, d'une année sur l'autre, l'atelier, bien sûr, va varier aussi un peu. Il y en a qui restent, il y en a qui partent, etc. Donc ça se renouvelle. Mmh. Et par contre, sur des moments plus ponctuels, donc sur des week-ends en résidence qu'on peut proposer avec tel ou tel artiste, là, c'est vraiment à la carte. Donc ça peut être, en général, ça permet, on essaie d'ouvrir en priorité à des adultes, par exemple, si on fait un week-end résidence sur des percussions ou sur de la musique, on va bien sûr le proposer en priorité à des adhérents qui font l'atelier musique ou chant, parce que c'est aussi un prolongement et puis un enrichissement de leur pratique, hein, qui leur permet d'aller plus loin. Mais ça peut être aussi l'occasion pour quelqu'un qui ne fait pas justement cet atelier de s'immerger dans une nouvelle pratique.
Découvrir. Et ça, c'est extrêmement important, effectivement, de pouvoir ménager ces passerelles, là aussi, portes à l'ensemble de ces publics. Et du coup, si on regarde aussi au niveau du nombre de personnes, combien de personnes participent régulièrement à ces ateliers proposés par Terre de Sienne?
Alors, sur chaque atelier, alors nous, on a à peu près 8 ateliers, si j'en oublie pas. Enfin, il y a de la vidéo, du théâtre, de la danse, des arts plastiques, de la percussion, du chant.
Très riche.
Et puis, il y a aussi des ateliers qui sont plus de l'aide au quotidien, donc de l'écriture, de la cuisine, qui permettent aussi d'accompagner les personnes dans leur autonomie. Voilà. Mais en tout cas, pour tous ces ateliers-là, on a à peu près toute l'année une douzaine, entre 12 et 14 adhérents.
Oui, donc ça fait déjà un gros potentiel.
Voilà, ça fait des ateliers bien remplis.
Tout à fait.
Sachant que sur chaque atelier, on est du coup plusieurs, donc il y a toujours un spécialiste
de la discipline
artistique donnée. Un membre permanent de l'association qui connaît bien le public et qui peut vraiment être sur l'accompagnement social. Si jamais un adulte se sent pas bien, etc., pouvoir aussi gérer ce versant-là. C'est pour ça que c'est du loisir adapté. Voilà. Et puis on fait appel aussi à tout un réseau de bénévoles qui viennent en plus sur les ateliers. Ce qui permet d'avoir vraiment un mélange aussi des, enfin c'est
très enrichissant
aussi pour
voilà.
les bénévoles.
Bien sûr.
D'abord, ça nous permet d'avoir un accompagnement beaucoup plus individualisé parce qu'il y a quand même des adultes qui ont des difficultés. Mmh. Et puis et du coup, c'est aussi un immense terrain de rencontre entre les gens et les milieux. Donc voilà, ça leur permet d'avoir vraiment une expérience humaine à chacun qui est très intéressante.
Bah merci Emmanuel de ce témoignage. En tout cas, ce qu'on peut convenir aussi, on l'évoquait tout à l'heure avec Delphine Morel, au travers de cette émission, on a une multiplicité aujourd'hui de correspondants dans différentes régions et départements de la région. C'est que, eh bien, comme on a convenu tout à l'heure avec Delphine, c'est de pouvoir vous retrouver régulièrement aussi avec Terre de Sienne et nous donner comme ça, voilà, les informations, les échos,
fraîches.
Des nouvelles fraîches. Voilà. Hein, surtout aujourd'hui, avec la chaleur que nous avons,
oui.
Et je pense qu'à Grenoble, la température doit être lourde.
Oui, on n'a pas froid.
Voilà, en tout cas, un grand merci, Emmanuel.
Eh ben, merci beaucoup.
Et puis donc, à très bientôt pour nous donner des nouvelles de Terre de Sienne.
Très bien, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. We'll be right back. Nous étions encore en compagnie de Louise Clavis, de Marc Baron, Paul Brousseau, Maxime Delpierre et François Merville dans ce magnifique album « L'imparfait des langues ». Nous avons pu donc entendre, grâce à nos deux invités aujourd'hui, Delphine Morel et Emmanuel Thiel, ces différentes initiatives qui permettent justement à des personnes en situation de handicap. Alors là, on a eu deux terrains bien différents. Si nous regardons à nouveau Terre de Sienne, une association ancrée dans une ville très riche aussi culturellement, qui est Grenoble, et qui, là aussi, dès son projet, dans son projet, a choisi aussi de faire que ces ateliers ne se passent pas in situ, dans un établissement médico-social ou un établissement de santé, mais puissent justement s'immerger dans différents espaces culturels, recherchant ainsi à tisser des passerelles, et ces passerelles permettant soit de rencontrer des artistes, ou de rencontrer de la pratique amateur, et petit à petit de mettre en œuvre tout un maillage. Et ça semble aussi aujourd'hui donc des pistes intéressantes. Quand on se penche aussi sur tout le témoignage que nous a donné Florence Delphine Morel donc à Montpellier, on se rend compte là aussi que effectivement des ESAT, des établissements d'aide par le travail, ne s'ancraient pas forcément beaucoup, en tout cas sous la dominante artistique. mais que d'emblée, ce projet qui est né à Montpellier a été nourri par plusieurs années de réflexion, à la fois sur ses objectifs, sur ses fondamentaux, et on a pu remarquer que l'un de ses fondamentaux, là aussi, est pertinent. En tout cas, le désir de pouvoir faire que ce projet soit lié immédiatement avec le milieu culturel, par le biais de partenariats avec des compagnies artistiques, par le biais de l'invitation d'artistes. Là, en plus, nous sommes dans un ESAT, une compagnie, et ça, je crois que c'est aussi c'est important. Elle s'appelle la compagnie La Bulle Bleue, donc qui s'oriente vers le théâtre et en même temps qui lie régulièrement pour chacun de ses projets des metteurs en scène. Alors, on sait que déjà la compagnie de l'Oiseau Mouche, qui elle est à Roubaix, pratique aussi beaucoup ça, l'invitation de metteurs en scène pour certains projets de création ou la reprise de pièces aussi du répertoire. Mais là, il y a ce côté-là et en même temps, l'invitation de compagnies qui viennent aussi travailler avec les comédiens de la compagnie de La Bulle Bleue. Et en même temps, toute une, on évoquait même le terme de jumelage avec un certain nombre de partenaires artistiques, là aussi très important dans la cité de Montpellier et qui du coup crée toute une synergie et toute une importance aussi de, si on regarde un petit peu plus sur le long terme, puisque le projet de La Bulle Bleue, de la compagnie de La Bulle Bleue, est tout récent. Il y a un an que celui-ci est en route, mais on voit que ayant déjà cette volonté immédiate d'être en lien avec le milieu et le tissu culturel, les perspectives justement de désenclavement, d'écloisonnement que ça donne, et puis certainement aussi parce que là on rencontre aussi les exigences artistiques partagées. Delphine Morel souhaitait vraiment insister beaucoup aussi sur toute l'exigence du projet artistique. Il est évident que lorsqu'on va rencontrer un artiste, une compagnie aussi artistique de la cité, elle va être aussi sur ses mêmes fondamentaux. Et là, on touche à quelque chose de très important. Donc, on voit que toutes ces questions, par la création de cet établissement, par le témoignage d'Emmanuel Thiel sur la ville de Grenoble, eh bien, au quotidien, traversent toutes les passerelles un petit peu de la société jusqu'à même la revue Philosophie Magazine qui, dans son dernier numéro de juin 2013, propose aussi de réfléchir à cette question. L'art nous aide-t-il à vivre ? Certains veulent changer le monde, pourquoi pas en créer un autre ? Et quand Philosophie Magazine pose cette question, l'art nous aide-t-il à vivre ? Voilà ce qu'ils nous disent, voilà un domaine qui ne connaît pas la crise. L'art, en effet, a aujourd'hui tout d'une valeur refuge. Il attire les spectateurs en foule dense lors des grandes expositions et suscite une spectaculaire explosion des pratiques amateurs. Symptôme de fuite face à une trop pesante réalité, point d'interrogation, ce n'est sans doute pas aussi simple, car à suivre l'ascension de l'attention esthétique depuis deux siècles, une histoire qui commence avec Kant et les romantiques, l'art tend à s'imposer pour les modernes comme un relais de l'idée effondrée du religieux. En témoigne le rapport initiatique dont nous font part les artistes célèbres ou anonymes interviewés ici dans cette revue et qui considèrent l'art comme un lieu privilégié d'accès à une réalité de soi ou du monde augmentée, relevant moins donc d'une pression sociale que d'un désir d'allègement de la vie en société. Voilà encore peut-être des éléments supplémentaires à ces deux témoignages, peut-être à parcourir aussi ce numéro de Philosophie Magazine du mois de juin qui s'en parlait uniquement bien sûr des publics spécifiques auxquels nous avons fait allusion dans cette émission, mais peuvent contribuer justement à alimenter cette réflexion, à l'importance en tout cas des pratiques artistiques, à ce qu'elles soient accessibles à tous et que là il y a un enjeu très très fort.
Nous arrivons au terme de cette émission. Celle-ci sera rediffusée jeudi prochain de 16h à 17h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, pour écouter votre radio en direct ou en différé, podcasté et connaître la grille des programmes. Vous pouvez vous rendre sur le site de tropicfm.org.
Merci de nous avoir accueillis une nouvelle fois chez vous. Portez-vous bien et à bientôt.